Il est 6h05. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à toi aussi, Yves Terrani.
Mais c'est gentil, merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
Ça me touche.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Il est là pour nous présenter le flash, c'est Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Quelques 400 habitants de Saint-Gingolf-France seront chauffés dès cet automne grâce à l'énergie de l'eau du Léman. C'est le principe de boucle d'eau, le réseau de chaleur gingolais en cours de construction. Mais comment fonctionne ce système? Explication avec Géraldine Pliguère, maire de la commune.
L'eau du lac est prélevée au niveau du quai de Saint-Gingolf et ensuite sert à alimenter des pompes à chaleur eau-eau. On lui prend 2 à 3 degrés, donc on rejette l'eau dans le lac 2 à 3 degrés plus froide que ce qu'elle est prélevée. Et avec ces 2 à 3 degrés, on fabrique de la chaleur pour chauffer les 170 logements.
Oui, notons encore que les bâtiments publics de la commune seront aussi chauffés via boucle d'eau. L'ensemble du projet est devisé à 2,1 millions d'euros, subventionné à hauteur de 65% par divers partenaires. Vous dire enfin que Saint-Gingolf sera la première commune française au bord du Léman à se chauffer à l'aide de l'eau du lac. Le Conseil d'État vaudois lance de nouvelles mesures pour dessiner le futur de la Fondation Urgence Santé, la FUSE. Celles-ci font notamment suite au constat de l'EMCC, l'état-major cantonal de conduite, dans le cadre de son mandat de stabilisation de la Fondation qui gère le 144 et la centrale téléphonique des médecins de garde. Parmi elles, la décision du Conseil d'État de maintenir la gouvernance provisoire de la FUSE sous l'égide de l'EMCC. Rebecca Ruiz, conseillère d'État chargée de la Santé.
Cet investissement de l'état-major cantonal de conduite depuis 5 mois a réellement permis de stabiliser la situation. On a aussi débloqué des moyens pour pouvoir nous assurer d'avoir des forces de travail en suffisance, ne pas épuiser le personnel, rappeler des gens à la dernière minute pour combler des absences qui étaient présentes ces derniers mois et qui mettaient évidemment en danger l'ensemble de la structure. Donc tout ceci a pu être stabilisé, mais cette stabilisation, elle est encore fragile. Elle doit pouvoir se poursuivre pendant ces mois pour nous permettre le temps de mener ces deux études et une fois que les décisions seront pesées, seront bien analysées par le Conseil d'État, il les prendra et à ce moment-là, l'EMCC pourra se retirer.
Des propos recueillis par Julie Gay. Pour rappel, début février, à la suite d'une dégradation avérée de l'ambiance et des conditions de travail, le Conseil d'État avait mandaté le chef de l'EMCC pour continuer à garantir les missions délivrées par la FUSE à la population en matière d'urgence et de santé publique, ainsi que pour restaurer un climat de travail apaisé. Plongé dans l'univers médiéval, les 13 et 14 août, ainsi que le week-end suivant au Château d'Aigle, organisé tous les 4 ans, la fête médiévale accueille chaque jour plusieurs milliers de personnes. Les 150 bénévoles sont costumés pour l'occasion afin de plonger le visiteur dans l'époque. Tout est mis en œuvre pour respecter au mieux l'an 1475, qu'il s'agisse des boissons ou de la nourriture. Rien n'est laissé au hasard. Par exemple, l'hypocras, vin sucré et épicé typique du Moyen-Âge, est servi dans des pichets en grès. Pour cette 7e édition de la manifestation, les organisateurs ont revu le concept. Le coprésident du comité d'organisation de la fête médiévale, Laurent Boux, nous en parle.
Alors, par rapport aux autres années, on a décidé de rassembler toutes les animations autour du château, un peu plus près, pour concentrer un petit peu tout ça, avoir l'écopement un peu plus proche également du château lui-même. On a également axé, disons, la thématique sur plutôt un marché et sur les artisans, par rapport à peut-être un peu plus de batailles et de personnes en armes les autres années. Et notamment, parmi ces artisans, nous aurons des ciriers, un posténier, qui était déjà là l'édition précédente, une souffleuse de verre, des fabricants d'arcs, du lancer de haches, enfin, etc., à découvrir dans le programme.
Oui, Laurent Boux, interrogé par Martine Vistiner. Hier, la ville de la Tour de Paix a rendu hommage à l'une de ses plus illustres citoyennes, Gertrude Girard-Monté, en inaugurant une allée. Décédée en 1989, l'intéressée a été, on le rappelle, une pionnière du suffrage féminin et des droits des femmes, la première conseillère nationale vaudoise et une européenne avant l'heure. Vérossa marquait hier les 200 ans de son indépendance. La commune s'est en effet séparée de Saint-Maurice le 27 juin 1822. Et pour marquer ce jubilé, les autorités ont décidé d'organiser une fête villageoise. Ce sera le 27 août prochain. À cette occasion, un livre retraçant l'histoire du village sera présenté au public. Par ailleurs, un sentier didactique imaginé et conçu par la société de développement sera inauguré ce jour-là. De violents orages ont éclaté hier soir dans une grande partie de la Suisse. Un front s'est déplacé des Alpes fribourgeoises vers la Suisse orientale en passant par la région bernoise et la Suisse centrale. L'ampleur d'éventuels dégâts n'est pas connue pour le moment. Une transition énergétique renouvelable et complète est possible d'ici à 2035. Il faut pour cela développer le photovoltaïque à grande échelle. C'est la certitude des ONG environnementales que sont le WWF, Greenpeace, BirdLife, ProNatura et l'association Transport Environnement qui ont dévoilé leur recette hier. Pour parvenir à la neutralité carbone en 2035, il s'agit d'accélérer le rythme. Le directeur du WWF suisse, Thomas Bellacotte.
Ce qui est essentiel pour nous, c'est que cette transition énergétique, elle protège le climat et la biodiversité en même temps. Il ne faut pas utiliser une de ces deux crises essentielles comme argument contre l'autre. Nous misons sur plusieurs axes. La première, c'est d'arrêter le gaspillage de l'énergie. Puis le deuxième, c'est de développer rapidement la production solaire. Et la troisième, c'est de veiller à ce que les critères de protection de la nature et d'utilisation d'énergie aient la même importance quand on planifie des projets énergétiques.
Thomas Bellacotte avec notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin. Les ONG environnementales affirment encore que le coût de la transition vers une énergie 100% renouvelable et respectueuse de l'environnement est aisément absorbable. Ce sera bien moins cher que les effets néfastes du réchauffement climatique. Europe, les 27 se sont mis d'accord hier sur des objectifs contraignants pour réduire leur consommation d'énergie et accélérer l'essor des renouvelables, mais ils ont reporté à plus tard les ajustements jugés nécessaires pour mettre fin à leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Les corps de 46 personnes au moins ont été retrouvés hier dans un camion près de San Antonio, Texas, selon plusieurs médias locaux. Les camions sont, on le rappelle, un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis. Diverses chaînes locales de télévision et un quotidien de San Antonio rapportaient hier soir la sinistre découverte et les images diffusées par la chaîne CAS-SAT montraient de nombreux véhicules de police et de secours sur les lieux. En France, une plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités, Damien Abad. Celui-ci a répliqué en annonçant une plainte pour dénonciation calomnieuse. Le parquet de Paris a confirmé à l'agence France-Presse avoir reçu cette plainte, précisant que celle-ci était en cours d'analyse. Selon le site d'investigation Mediapart, celle-ci a été déposée par une élue centriste qui accuse le ministre d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris au premier semestre 2010. Une agression contestée, je cite, avec la plus grande fermeté par Damien Abad. Sport, tennis, Helena Inalbon n'a pas passé le cap du premier tour à Wimbledon, opposée à l'américaine Alison Risque. La Valaisanne s'est inclinée 6-2, 6-4 hier. La joueuse de 23 ans ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier match en Grand Chelem, dans lequel elle n'a pas eu vraiment voix au chapitre. Plus conquérante au cours de la deuxième manche, Helena Inalbon a réussi à faire douter son adversaire sur son engagement, mais pas suffisant pour changer la tournure de la rencontre. Et puis, c'était un secret de Polichinelle. On vous parle là de football. Un secret de Polichinelle depuis plusieurs jours. C'est désormais officiel, Lucien Favre, Lulu Favre, et bien le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Le Vaudois retrouve donc le club français qu'il a dirigé de 2016 à 2018. Sous ses ordres, la formation niçoise a écrit l'une des plus belles pages de son histoire, avec notamment la troisième place de la Ligue 1 décrochée lors de la saison 2016-2017. La durée d'engagement de Lucien Favre n'a en revanche pas été communiquée pour le moment.